Alors, nous allons passer 3 heures environ, 2 heures pour certains, sur les textes des lectures de la veillée pascale. Vous savez qu'il y a 2 ou 3 ans, le Saint-Père a institué un dimanche de la parole de Dieu, juste après le temps de Noël, pour rappeler l'importance pour les chrétiens de cette nourriture spirituelle qu'est la lecture de la parole de Dieu. À chaque Eucharistie, nous entendons la parole de Dieu, et pour que cette écoute porte du fruit, il est bon de préparer cette écoute par ce que l'on appelle la lectio divina, la lecture personnelle de la Bible. La lectio divina commence par une invocation à l'Esprit-Saint parce que nous ne lisons pas la Bible comme nous lisons un roman ou un livre pour notre vie professionnelle. Nous y trouvons Dieu qui nous parle, nous entrons dans un dialogue avec Dieu. Dieu nous parle et nous invite à répondre. Le premier temps de la lectio divina, c'est d'écouter ce que le texte dit en lui-même. Et ça suppose de travailler le texte, de le lire, de le relire, de le relire encore. Parce qu'à la première lecture, nous voyons dans le texte ce que nous savons déjà. Les lectures de la veillée pascale, nous les entendons tous les ans. Et donc, à peine avons-nous commencé la lecture que nous savons déjà ce qu'il y a dans le texte et nous commençons à penser à autre chose. À la deuxième lecture attentive, nous disons, tiens, j'avais jamais remarqué ça. Ah, mais il y a ça. Et pourquoi? Et puis à la troisième lecture, même chose, mais simplement nous commençons à nous dire, ah, mais voilà, ça, c'est en lien avec ça. Cette expression-là, je l'avais déjà vue. Elle est au début du texte, elle est à la fin du texte. Tiens, là, il y a monter, là, il y a descendre. Ah, tout ça, c'est en écho. Voilà, ce que le texte dit en lui-même. Les textes de la Bible sont des textes qui ont été extrêmement travaillés. Au temps de la Bible, on n'a pas un ordinateur, on n'a pas du papier à disposition. On écrit sur du parchemin, ça coûte très cher, le livre est un objet de luxe, et donc on dit l'essentiel. Et ce sont des textes extrêmement travaillés pour nous dire l'essentiel en quelques mots. Et quand nous les entendons dans la liturgie, ce sont des lectures qui sont assez brèves et très denses. Premier temps, qu'est-ce que le texte dit en lui-même? Deuxième temps, qu'est-ce qu'il me dit? Dieu me parle aujourd'hui, dans mon histoire, dans ce que je suis en train de vivre. Un mot, une expression va peut-être me toucher d'une façon toute particulière. Et Dieu veut me parler par ce mot, par cette expression. Ce que le texte dit, ce que le texte me dit aujourd'hui, je fais remonter vers Dieu en prière la parole qu'il vient de me dire. Ce que je dis à Dieu en réponse à sa parole, c'est le troisième temps. Et puis le quatrième, peut-être que ce que Dieu me dit, c'est un appel à la conversion. Et peut-être que cela va appeler de ma part une décision sur un point de conversion. Voilà les 4 temps de la lectio divina. Travailler le texte, écouter ce qu'il dit en lui-même, le laisser parler à mon cœur, faire remonter vers Dieu en prière la parole qu'il m'adresse et prendre une décision sur un point de conversion. Alors, au cours de la veillée pascale, normalement, on fait 7 lectures de l'Ancien Testament, ensuite l'épître de Saint Paul aux Romains, et ensuite l'évangile qui raconte la découverte du tombeau vide. Ces lectures peut les faire durant toute la veillée pascale, et c'est comme ça que la veillée pascale est prévue. Malheureusement, souvent, on ne choisit que quelques lectures. Parmi les quelques lectures choisies, il y a toujours le récit de la création, toujours le récit du passage de l'Exode, et encore une troisième, je ne sais plus si c'est le livre d'Ézéchiel. Donc il y a trois lectures de l'Ancien Testament impératives, mais l'idéal, c'est de lire l'ensemble. Et voilà ce que le prêtre dit au commencement de la liturgie de la parole, une fois que la demande de pardon a été, enfin que l'oraison introductive a été dite. Le prêtre fait une petite introduction sur ce que nous allons entendre au cours de la veillée pascale. Frères et sœurs bien-aimés, nous voici entrés dans la vigile solennelle. Écoutons maintenant d'un cœur paisible la parole de Dieu. Méditons et voyons comment, dans les temps passés, Dieu a sauvé son peuple et comment, dans ces temps qui sont les derniers, il nous a envoyé son Fils comme Rédempteur. Demandons à notre Dieu de conduire jusqu'à son plein achèvement cette œuvre de salut inaugurée dans le mystère de Pâques. Nous voici entrés dans la vigile solennelle. Il n'y a pas de messe plus solennelle que la veillée pascale. On prend son temps. C'est une fois dans l'année. On a le temps d'écouter toutes ces lectures. Méditons et voyons comment, dans les temps passés, Dieu a sauvé son peuple. C'est toute l'histoire du salut dans l'Ancien Testament. Dieu a pris le temps, plusieurs siècles, de préparer son peuple à accueillir son Fils. Et déjà, Dieu se révèle comme le Dieu qui aime, qui sauve. Comment, dans les temps passés, Dieu a sauvé son peuple? Comment, dans ces temps qui sont les derniers, il nous a envoyé son Fils comme Rédempteur? Dans la veillée pascale, comme dans chaque Eucharistie, nous écoutons l'Ancien Testament en relation avec le Nouveau Testament. L'Ancien Testament prépare l'accomplissement en Jésus. Nous ne pouvons comprendre les évangiles et tout le Nouveau Testament que si nous avons lu l'Ancien Testament. Sans cesse, le Nouveau Testament fait référence à l'Ancien Testament. Et il nous dit en substance, ce qui était annoncé comme une promesse vient de s'accomplir. Et c'est accompli d'une manière inespérée, inattendue, beaucoup plus grande, beaucoup plus belle que ce qu'on pouvait espérer. Nous écoutons donc l'Ancien Testament dans la lumière du Nouveau Testament, mais sans plaquer tout de suite la lumière du Nouveau Testament sur l'Ancien. Nous passons de la semi-obscurité à la lumière, et pas l'inverse. Si vous faites cette expérience au mois d'août, ceux qui habitent dans le sud, vous vous promenez, et puis vous avez une borie, c'est cabane de pierre faite par les bergers, de pierre sèche. Vous entrez dans la borie, vous ne voyez absolument rien, parce que vous étiez ébloui par la lumière de l'été, vous entrez dans le noir, vous ne voyez rien. Par contre, si vous êtes dans la borie depuis déjà 5-10 minutes, vous voyez très bien ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis après, vous sortez et vous arrivez à la lumière. Et donc, on passe de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Et la lumière du Nouveau Testament est plus pleine quand on a approfondi l'Ancien Testament. Toutes les clés du Nouveau Testament sont données dans l'Ancien. Et puis, troisième temps, demandons à notre Dieu de conduire jusqu'à son plein achèvement cette œuvre de salut inaugurée dans le mystère de Pâques. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui entre l'avènement de Jésus, mort et ressuscité, et son retour. C'est encore le temps du salut qui est éclairé par l'histoire du salut de l'Ancien Testament, accompli en plénitude par le Christ. Et donc tout ce que nous entendons, c'est notre vie. C'est ce que Dieu est en train de faire dans notre vie. Nous n'écoutons pas l'histoire de César, l'histoire de Napoléon. C'est des archives, c'est du passé. Bien sûr, ça explique ce que nous vivons aujourd'hui, mais ce n'est pas ce que Dieu est en train de faire dans notre vie aujourd'hui. Quand nous écoutons la parole de Dieu, Dieu nous parle aujourd'hui. Alors, nous ne pouvions pas prendre toutes les lectures de la veillée pascale, il fallait faire des choix. Il se trouve que la semaine dernière, le père Étienne Jonquet a déjà étudié, dans un samedi du Studium, Genèse 1 à 3. Et donc, je n'ai pas pris la première lecture, le récit de la création. Nous allons étudier les trois lectures suivantes. L'histoire de la ligature d'Isaac, l'histoire de la sortie d'Égypte, évidemment, et puis un texte du livre d'Isaïe qui raconte le retour en grâce de l'épouse qui se sentait abandonnée, répudiée par son époux. Alors, je vous laisse d'abord le temps de lire cette première lecture. À chaque fois, j'ai mis le texte de l'Ancien Testament, le psaume qui va avec, et puis l'oraison. Après la lecture du texte de l'Ancien Testament et du psaume, il y a une oraison en lien avec la lecture que nous avons écoutée. C'est uniquement lors de la veillée pascale qu'il y a, après la lecture, une oraison. Alors, voilà, on prend un petit temps chacun pour lire Genèse 22, en étant attentif aux mots et puis aussi à la façon dont progresse ce texte, et peut-être les questions qu'il nous pose. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont arrêté, des difficultés qui vous ont... Oui ?
Alors, quand je lis le passage, quand Abraham dit « Restez ici avec l'âne, moi et l'enfant iront jusque là-bas pour adorer, reviendront vers vous », alors ça m'a interpellée parce que je me dis, Abraham il est en train de mentir parce qu'il sait très bien pourquoi il est là. Et d'un autre côté, je me dis, peut-être il savait qu'il n'irait pas jusqu'au bout. J'ai façonné comme ça dans ma tête.
Voilà. Donc, une difficulté du récit, enfin une difficulté, un point d'interprétation. Lorsque Abraham laisse ses serviteurs au verset 5, « Moi et l'enfant, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Est-ce qu'Abraham est en train de mentir ? Parce qu'il est parti pour sacrifier son fils, ou est-ce que déjà il pressent que Dieu fera quelque chose et qu'il reviendra avec son fils? De fait, oui.
Il y a la réponse au paragraphe suivant. Dieu saura bien trouver l'agneau, il y a une espèce de foi, de confiance.
Oui. Avec toujours cette ambiguïté, en fait, vous l'interprétez comme à la question d'Isaac, où est le bélier, l'agneau pour l'Holocauste, vous, vous l'interprétez comme un acte de foi d'Abraham, disant, ben oui, il sera bien trouvé l'agneau, mais on pourrait aussi l'interpréter comme de la duplicité. Il ne veut pas dire à son fils que c'est lui qui sera la victime du sacrifice, et il dit, oh, mais t'inquiète pas, Dieu sera bien trouvé. Voilà, ça c'est l'art aussi du narrateur, de laisser ces lieux pour l'interprétation du lecteur. Alors, commençons d'abord par situer ce texte. C'est toujours important de situer ce texte dans le récit plus large. Quand nous lisons les textes de la liturgie, ce sont des petits extraits. Pour bien les comprendre, il faut souvent les resituer dans le contexte plus large. Et le contexte plus large, c'est toute l'histoire d'Abraham dans le livre de la Genèse, du chapitre 12, enfin la fin du chapitre 11 jusqu'au chapitre 24. Et au tout début de l'histoire d'Abraham, c'est l'appel adressé à Abraham, quitte ton pays pour le pays que je te montrerai et je te ferai un grand nom. Et dès la première parole de Dieu à Abraham, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai grand ton nom. Il y a une promesse pour le futur et la promesse de faire d'Abraham une grande nation. Et donc la promesse d'une descendance. Et ça va être la grande question de l'histoire d'Abraham. Comment va se réaliser cette promesse d'une descendance? Abraham, on apprend que sa femme est stérile. Lui, il est déjà très vieux, sa femme est très âgée. Ils ne peuvent plus engendrer. Et Dieu va venir leur annoncer que Sarai va engendrer. Il va falloir plusieurs chapitres entre la promesse de la naissance d'Isaac et puis la réalisation de la naissance d'Isaac. Isaac va naître au chapitre 21, juste avant ce que nous venons de lire. Avant cela, Abraham, ne voyant rien venir de la promesse de Dieu, se dit, bon, ben je vais prendre mon esclave, je vais, plutôt c'est Sarai qui dit, Abraham n'a toujours pas de descendant, je vais prendre mon esclave, et puis Abraham va s'unir à mon esclave, et puis ça sera la descendance qu'Abraham aura. Et Dieu dit, non, non, c'est pas ça que j'ai prévu. Non, non, c'est bien toi, Sarai, qui va engendrer alors que tu es stérile. Et puis enfin, au chapitre 21, la naissance d'Isaac, l'accomplissement de la promesse. Et nous commençons notre récit, chapitre 22, verset 1. Dieu mit Abraham à l'épreuve, il lui dit, Abraham, celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là tu l'offriras en sacrifice sur la montagne que je t'indiquerai. Quelle est la réaction du lecteur quand il lit ces deux versets? Quelle est votre réaction? C'est un scandale, oui. Ça n'a pas de sens. C'est complètement incompréhensible d'abord d'offrir un enfant en sacrifice, et puis en plus son fils unique, qui est l'objet de la promesse. Alors, qu'est-ce qui nous est dit là, dans ces deux versets? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous permet de comprendre l'incompréhensible? Oui? Qu'est-ce que ça veut dire, l'épreuve? Oui, et alors, quel rapport entre l'épreuve et le fait qu'Abraham craint Dieu? Oui, qu'est-ce que c'est une épreuve? Alors, voilà, c'est la preuve. Hein? Épreuve, preuve. L'épreuve du baccalauréat manifeste que vous êtes capable d'étudier à l'université. Si on plonge, autrefois on faisait ça. On plongeait une épreuve dans un bain révélateur et puis on avait la photo. Et donc, l'épreuve fait connaître quelque chose. Et qu'est-ce qui est l'objet de l'épreuve, là? Où est-ce que... Oui? Oui? Est-ce que l'objet de l'épreuve est indiqué à un moment dans le texte? Ça, oui, ça c'est l'épreuve elle-même, mais qu'est-ce que l'épreuve doit faire connaître? Est-ce qu'à un moment dans le texte... Alors, ce que je vous demande, c'est pas de me réciter le catéchisme, c'est de lire dans le texte qu'est-ce qui est dit dans le texte. Est-ce qu'à un moment dans le texte, nous comprenons qu'est-ce que l'épreuve devait manifester? Alors, verset 12, oui.
Je sais maintenant que tu crains Dieu, tu n'as pas refusé ton fils unique, et ça fait écho à offre ton fils unique.
Est-ce que tout le monde voit ça? Le rapport entre le verset 12 et le verset 1.
La crainte, c'est pas de la peur, c'est honorer Dieu.
Oui? Oui, oui. Voilà, craindre Dieu, ici, c'est reconnaître la grandeur de Dieu.
Le son de la conférence de l'auditorium. Oh, tu sais faire ça.
Il y a un petit problème technique, excusez-moi.
On entend la conférence de l'auditorium.
Voilà, donc... Dieu dit au verset 12, je sais maintenant. Donc il y a quelque chose qui s'est passé et je sais maintenant. Donc l'épreuve a joué son rôle. Elle a révélé que Abraham craint Dieu. Mais alors, Dieu ne sait pas tout? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Voilà, Dieu respecte notre liberté. Et on peut comprendre aussi que l'épreuve révèle non seulement à Dieu, mais à Abraham lui-même qu'il craint Dieu. Abraham, à Isaac, Abraham n'a pas reculé devant l'épreuve. Il est allé jusqu'au bout de son amour de Dieu. Même lorsque Dieu lui demandait le sacrifice le plus grand, ce qui était l'objet de la promesse, pour un homme ne pas engendrer, pour un homme et pour une femme, ne pas engendrer, c'était la pire chose au monde. Parce que nous sommes dans une culture qui ne croit pas encore en la résurrection. Engendrer, c'était une manière de survivre dans sa descendance. Parce que ma descendance garde le souvenir de son ancêtre, garde le souvenir de mon nom. Si je n'ai pas de descendance, je disparais. Qu'est-ce qui reste de mon séjour sur la terre? Plus rien. Je survis dans le séjour des morts, une espèce de vie léthargique, mais je n'ai pas une descendance qui fait mémoire de moi. Et donc Abraham est allé jusqu'au bout et a manifesté qu'il craignait Dieu et qu'il croyait aussi que, quel que soit ce que Dieu lui demande, un bien allait ressortir de cette épreuve. Et donc tout le récit est organisé pour faire ressortir la foi d'Abraham, son obéissance jusqu'au bout. Si on regarde la façon dont le récit est construit jusqu'au verset 12, comment apparaît la foi d'Abraham? Oui, et comment elle est manifestée dans le texte? Est-ce que vous comprenez ma question? Comment le narrateur nous montre, nous met sous les yeux la foi d'Abraham, son obéissance, mais comment elle nous est montrée? Me voici. Voilà. En fait, il le dit trois fois, mais dans la traduction, c'est la traduction liturgique, ça n'apparaît que deux fois. Dieu dit Abraham, me voici. Voilà. C'est le serviteur que son maître appelle et qui dit « Je suis prêt à obéir à ton ordre. Me voici. » Au verset 1 et encore au verset 11. Alors, normalement, il y a aussi « Me voici » au verset 7. Isaac interrogea son père, Abraham, mon père. Normalement, c'est « me voici mon fils ». Et donc, Abraham est aussi comme un père à la disposition de son fils, prêt à parler avec son fils, à l'écoute de son fils. Et puis, Delphine, vous disiez
toutes ces actions.
Abraham, c'est un peu le grand silencieux. Si vous lisez au chapitre 12 de la Genèse, le récit de l'appel d'Abraham, on va lire parce que c'est vraiment un texte fondamental pour l'histoire d'Abraham, mais même pour toute l'Écriture. Le chapitre 12, versets 1 à 4. Le Seigneur dit à Abraham, « Pars de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père vers le pays que je te ferai voir. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai grand ton nom. Sois en bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront,
qui te bafouera, je le maudirai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham partit, comme le Seigneur le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Il faut imaginer, quitte ton pays, quitte ta famille, quitte tes amis, pour le pays que je te montrerai. Pars pour l'inconnu. Fais-moi une confiance radicale. Tu sais ce que tu quittes, tu ne sais pas ce que tu vas trouver. Fais-moi confiance. Et Abraham ne dit pas, « Ah, mais tu te rends compte, mais quand même, ma famille, mais qu'est-ce qu'ils vont penser ? Et puis, je vais être un immigré là-bas, mais qui va m'accueillir ? Et peut-être je vais connaître la faim là-bas. Et puis ce pays que tu... Peut-être c'est un pays où il y a la violence. » Abraham ne dit rien. Il répond par ses pieds. Abraham partit. Une obéissance radicale et donc une confiance radicale. La foi dans une parole pour le futur, une promesse. Je ferai de toi une grande nation, je rendrai grand ton nom. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Tu vas devenir une source de bénédiction. Abraham partit. Point. C'est d'une sobriété déroutante. Et nous retrouvons la même sobriété dans notre texte. Prends ton fils unique, celui que tu aimes. Voyez l'art de l'auteur. Ton fils, ton unique, t'en as pas d'autre. Hein. C'est ton bien-aimé. C'est celui-là que tu vas m'offrir. Va au pays de Moria et là tu offriras un sacrifice sur la montagne que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, prit avec lui deux de ses serviteurs et son fils Isaac, il fendit le bois pour le sacrifice, il se mit en route vers l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Une série d'actions. Abraham agit. Abraham ne fait pas des discours. Il agit. Et il met en pratique la parole qu'il a entendue. Même chose au verset 6, Abraham a vu l'endroit qu'il devait reconnaître comme le lieu du sacrifice. Au verset 6, Abraham prit le bois pour le sacrifice, le chargea sur son fils Isaac, il prit le feu, le couteau, tous deux s'en allèrent ensemble. Et là, dans ce dialogue, qu'est-ce qui se passe? Au chapitre 22, versets 6 à 8. Pourquoi il y a ce dialogue? Pardon?
C'est la similitude avec
Oui, qu'est-ce que vous voulez dire par là, la similitude avec l'Évangile?
Isaac interrogea son père Abraham. Ça fait penser le Christ qui dit, mon père, que cette coupe s'éloigne de moi.
D'accord, donc un... Oui? Donc vous faites le rapprochement. Au fond, on a la même situation, un père qui offre son fils en sacrifice, et le fils qui interroge son père, et vous vous dites, ah, ça me fait penser au Nouveau Testament, un père, Dieu le Père, qui offre son fils en sacrifice, et le fils qui interroge son père au moment ultime à Gethsémani et qui dit « Père, pour toi tout est possible, éloigne de moi cette coupe. » Simplement ici, c'est sous-entendu. Et il n'est pas dit que Isaac comprend que son père veut l'offrir en sacrifice. Mais nous avons entendu Dieu demander à Abraham d'offrir son fils en sacrifice. Et donc, nous savons des choses que Isaac ne sait pas. Abraham n'a pas dit à Isaac, tiens, on va partir, je vais t'offrir en sacrifice. Ah ben pourquoi pas, allons-y. Bon. Bien sûr que non. Donc Isaac ne sait pas. Isaac est parti pour un sacrifice, ça il le sait, parce qu'il a vu le bois du sacrifice, il a vu le couteau pour tuer la victime. Et là, tout d'un coup, il fait confiance à son père, mais au bout d'un moment, il se dit, bon, d'accord, on va offrir un sacrifice, mais alors où est la victime? Et là, vous voyez que la tension monte. La tension dramatique, ce dialogue entre un père torturé par l'ordre que Dieu lui donne d'offrir son enfant, et puis cet enfant candide, innocent, plein de confiance envers son père, qui lui dit « Bon, mais alors ?» Et la victime, et qui porte le bois, qui porte le bois. Les pères de l'Église, évidemment, vont faire le rapprochement entre ce bois du sacrifice et le bois de la croix porté par Jésus. Et donc, sommet de la tension dramatique. Est-ce que le fils va se révolter? Est-ce qu'il va se dire... Est-ce que Abraham, touché au cœur par la confiance de son fils, va reculer au dernier moment en disant « Mais je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. » Pardon ? Ah, ben c'est sympathique comme tout. Voilà. Voyez l'art du récit qui fait monter la tension dramatique. Tout le monde est en haleine. Qu'est-ce qui va se passer?
Ils sont tous les deux,
oui. Ouais. Petite parenthèse. Ce récit nous raconte... quelque chose qui se passe entre Dieu et Abraham et Abraham et son fils, mais qui n'a pas de témoin. C'est comme si on entrait dans l'intimité d'Abraham et pour comprendre quelque chose, et en même temps... Abraham, au retour, ne commence pas à raconter à tout le monde. Ça reste quelque chose de très intime. Donc, petit dialogue. Abraham répond, Dieu saura bien trouver l'agneau pour l'Holocauste. En fait, là encore, dans le texte hébreu, c'est Dieu verra. Dieu verra l'agneau pour l'Holocauste. Et ils s'en allaient tous deux ensemble. Bon, le dialogue n'a pas débouché sur un recul d'Abraham, ni une réaction inquiète d'Isaac qui flairerait quelque chose et qui dirait « Ben non, non, moi je ne veux pas aller avec toi, non. » Donc, l'histoire continue. Il fait confiance à son père jusqu'au bout. Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué, et à nouveau la séquence des actes. Abraham éleva l'autel. Si vous lisez le chapitre 12, Abraham quitte son pays, et puis il arrive au pays de Canaan, et au fur et à mesure, à chaque fois, il bâtit un autel. Donc il va fonder des sanctuaires dans cette terre, des lieux de rencontre avec Dieu. Et il fait ça encore, il élève l'autel, il dispose le bois, il lia son fils Isaac, il le mit sur l'autel, par-dessus le bois, il étendit la main, il saisit le couteau pour immoler son fils. Vous voyez, vous avez sans doute tous vu des tableaux. L'art a représenté ça, Abraham avec son bras et son couteau. Et puis, voilà, l'ange qui arrive et qui va retenir le bras d'Abraham. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel, « Abraham, Abraham », il répondit, « Me voici ». Toujours la même attitude. La limpidité de la réponse d'Abraham à l'appel du Seigneur. Il est toujours prêt, dispo. Et là, l'épreuve a joué son rôle. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Oui, c'est fréquent dans l'Ancien Testament. Au fur et à mesure que Israël a progressé dans sa relation avec Dieu, il a eu un plus grand sens de la transcendance de Dieu. Et donc, dans un certain nombre de textes, assez nombreux, Dieu parle comme si c'était un homme qui parlait. Mais au fur et à mesure, c'est plutôt un ange qui parle au nom de Dieu. Au fur et à mesure qu'on avance, comme la Bible s'est faite sur un temps très long, il peut y avoir au début de la Bible comme livre qu'on lit d'un bout à l'autre, il peut y avoir des textes plus récents et qui sont marqués par cette théologie de la transcendance de Dieu plus marquée. Donc l'ange parle au nom de Dieu, et la suite du récit, au fond, qu'est-ce qu'elle va manifester? Alors il y a l'offrande du sacrifice, et puis au verset 14, Abraham donna à ce lieu le nom de « Le Seigneur voit ». Qu'est-ce que le Seigneur a vu? Bien sûr, il a vu la foi d'Abraham, sa crainte de Dieu, crainte au sens de l'attitude religieuse juste devant Dieu, c'est-à-dire l'attitude qui reconnaît la grandeur de Dieu, mais dans un mouvement de confiance, pas de peur, pas la terreur devant Dieu. Il a vu aussi le bélier pour l'Holocauste, il a pourvu. Et puis, on l'appelle aujourd'hui, ce mont, sur le mont, le Seigneur est vu. Parce que si Dieu a vu que Abraham craint Dieu, Abraham a vu que Dieu ne lui a pas demandé jusqu'au bout d'offrir son fils, et que Dieu est un Dieu bon, miséricordieux, un Dieu qui est pour la vie. Et au verset 15 et suivant, qu'est-ce qui se passe? Vous avez entendu au chapitre 12, Abraham est appelé à être une bénédiction pour toutes les nations. Abraham et sa descendance. l'élection d'Israël, on dit le peuple élu, l'élection d'Israël, ce n'est pas l'élection d'un peuple contre les autres, c'est une élection d'un peuple pour les autres. Dieu veut bénir toute l'humanité. La première lecture, Genèse 1, que nous entendons à la veillée pascale, se termine par la bénédiction. Dieu les bénit et il dit « Croissez, multipliez-vous, etc. » Ce Dieu est un Dieu qui foncièrement bénit. La force qui agit dans l'histoire, qui fait avancer le monde, c'est la bénédiction de Dieu. Et à partir du chapitre 12, cette bénédiction pour tous les hommes, elle va passer par un peuple, Abraham et sa descendance. Il fallait qu'Abraham passe par l'épreuve, étant donné la mission qui lui était donnée. Il est le porteur de la bénédiction de Dieu pour tous les peuples. Et une fois que l'épreuve a manifesté qu'il craint Dieu, alors est renouvelée la promesse de la bénédiction. Verset 15, « Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham, « Je le jure par moi-même, déclare le Seigneur. » C'est la parole la plus solennelle, le serment, « Je le jure. » Parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance tiendra les places fortes de ses ennemis. Parce que tu m'as obéi, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. Et ça, pour nous, c'est très important de le comprendre. Nous sommes invités à bénir Dieu pour le bien qu'il fait aux autres. Toutes les nations sont invitées à bénir Dieu pour Abraham et sa descendance. Oui ? Oui. Oui.
Celui que tu as dit, c'est en fait une question vocationnelle. C'est la vocation de Abraham par la suite. Quand on va voir tous ces actes, cette obéissance, comme vous disiez tout à l'heure,
oui.
Total par, par ce silence, et on peut dire aussi par tous ces actes, cette volonté radicale aussi. Les actes de
oui.
Donc c'est la vocation d'Abraham. C'est une question vocationnelle.
Oui, tout à fait. Oui, 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 oui. Alors, quand on lit tout le récit d'Abraham, ce qui est premier, c'est la promesse. Et la promesse, c'est il y a une dimension de gratuité dans la promesse. Abraham n'a pas mérité la promesse. La promesse qui est une bénédiction. Ça, c'est le socle, le fondement de tout. Dieu bénit, et il bénit un homme pour bénir tous les hommes. Un homme et sa descendance. Et dans un second temps, prends conscience de ta responsabilité. Tu es source de bénédiction. Je t'ai fait ce don d'une descendance. D'une certaine manière, ce don ne t'appartient pas. Je te le confie, mais ce fils, il m'appartient toujours. Est-ce que tu as compris ça? Est-ce que tu es capable de remettre entre mes mains le don que je t'ai fait? Est-ce que tu es capable de te désapproprier et de recevoir ce don en restant toujours en relation avec moi.
C'est plus
Oui, le détachement, exactement, le détachement, le détachement. Ne pas garder pour soi dans une attitude possessive. Et en fait, les pères de l'Église, je crois que c'est Saint Augustin qui dit, la difficulté, c'est de s'approprier le don en oubliant le donateur. Le don est pour la relation. Si je confisque le don et ensuite je dis le donateur, je ne veux plus rien avoir avec lui, alors je suis à côté de ce que Dieu veut faire. Oui, oui, oui. Et il faut toujours savoir que les dons de Dieu, ils sont pour moi, mais ils ont une destination beaucoup plus large. C'est vrai pour les dons spirituels que Dieu me fait, pour les dons matériels aussi. Ça, c'est la doctrine sociale de l'Église. Les dons de la création sont à la disposition de tous les hommes. Et quelqu'un qui est entreprenant et qui fait fructifier les dons, il ne doit pas confisquer les dons. C'est pour tous les hommes. Oui ?
Est-ce que le fait de sacrifier son fils, donc en fait, il donne la vie de son fils à Dieu, est-ce qu'on peut faire le lien avec le baptême ? Parce que le baptême, en fait, on se met entre les mains de Dieu. Le jour du baptême, on donne sa vie à Dieu.
Oui.
Donc on peut aussi faire le lien avec le baptême.
Oui. Alors, on va regarder justement l'oraison qui est lue après cette lecture et après le psaume. Dieu très saint, Père des croyants, en répandant la grâce de l'adoption, tu multiplies sur toute la terre les fils de ta promesse. Par le mystère pascal, tu fais de ton serviteur Abraham, comme tu l'avais promis, le père de toutes les nations. Accorde à ton peuple de savoir répondre à cet appel. Cette oraison, en fait, elle suppose un texte du Nouveau Testament qu'on trouve notamment dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3. Saint Paul dit, au fond, Abraham, c'est le père de tous les croyants. C'est pas seulement le père d'Israël, ceux qu'aujourd'hui nous appelons les Juifs, c'est pas seulement l'ancêtre des Juifs, dans l'ordre de la foi, c'est aussi notre ancêtre. C'est le premier des croyants, le père des croyants. Il a cru en la promesse, il a cru en la bénédiction, et parce qu'il a accueilli la bénédiction dans la foi, la bénédiction a pu porter du fruit dans le monde. La promesse, elle est gratuite, mais elle n'est pas suspendue en l'air. Il faut qu'elle soit reçue dans la foi. Quand elle est reçue dans la foi, elle porte du fruit. Un peu comme dans l'Évangile, la parole qui est semée dans la bonne terre, elle porte du fruit. Si je prends l'Épître aux Galates au chapitre 3, je vais vous le lire. En fait, on peut aller jusqu'au verset 14. Je vous ai mis jusqu'au verset 9 dans la feuille, mais... Je prends à partir du Épître aux Galates, Saint Paul, Épître aux Galates, chapitre 3, verset 6 et suivant. Puisqu'Abraham eut foi en Dieu, et cela lui fut compté comme justice, comprenez-le donc, ce sont les croyants qui sont fils d'Abraham. D'ailleurs, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a annoncé d'avance à Abraham cette bonne nouvelle, « Toutes les nations seront bénies en toi. » Ainsi donc, ceux qui sont croyants sont bénis avec Abraham, le croyant. Car les pratiquants de la loi sont tous sous le coup de la malédiction, puisqu'il est écrit... Bon, alors je passe sur je ne passe pas. Maudit soit quiconque ne persévère pas dans l'accomplissement de tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il est d'ailleurs évident que par la loi, nul n'est justifié devant Dieu, puisque celui qui est juste, par la foi, vivra. Or, le régime de la loi ne procède pas de la foi. Pour elle, celui qui accomplira les prescriptions de cette loi en vivra. Christ a payé pour nous libérer de la malédiction de la loi, en devenant lui-même malédiction pour nous, puisqu'il est écrit « Maudit quiconque est pendu au bois ». Cela pour que la bénédiction d'Abraham parvienne aux païens en Jésus-Christ, et qu'ainsi nous recevions par la foi l'Esprit objet de la promesse. Alors, c'est un texte un peu difficile, il faudrait en soi y passer toute une matinée, mais ce qui est important, c'est que Saint Paul nous dit, au fond, cette promesse de bénédiction faite à Abraham, pour qu'elle passe à toutes les nations, il fallait que le Christ l'assume. Et au fond, le Christ est celui qui, fils bien-aimé du Père, au moment du baptême, Jésus entend cette parole, « Tu es mon fils bien-aimé ». C'est le Fils unique bien-aimé du Père, et c'est lui qui s'offre en sacrifice. Et ce sacrifice nous obtient que la bénédiction promise à Abraham nous est donnée à nous, qui ne sommes pas de la descendance d'Abraham, selon la chair, c'est-à-dire nous ne sommes pas des descendants directs d'Abraham, mais nous sommes les descendants du Père des croyants par la foi. Par le baptême, nous devenons croyants à l'image d'Abraham. Et donc ce texte, il nous parle d'Abraham, il nous le montre en exemple, il nous parle du Christ, le Fils bien-aimé offert en sacrifice, et il nous parle de nous-mêmes, qui sommes invités à avoir la même foi qu'Abraham, et qui recevons par la foi au Christ la bénédiction promise à tous les peuples par Abraham. D'où l'importance d'entendre à la veillée pascale ce texte de l'offrande d'Isaac. Alors on fait une pause et puis on revient dans 10 minutes, ça va ?
Je voulais rajouter, vu qu'on compagne les grands prêtres de l'époque à la Prague, qui étaient capables de faire le parallèle entre cette histoire d'Abraham.